Kyotio, vous étiez recteur de l'Académie de Poitiers au moment de la création de cet établissement. Merci d'être parmi nous aujourd'hui et je vous laisse porter témoignage de la création de ce lycée.
Madame la proviseure, monsieur le maire, madame le maire Alfouin, chers amis, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un établissement où je suis revenu diverses fois, où j'ai eu et où j'ai encore quantité de connaissances et d'amis, et je suis toujours à l'aise quand je suis ici. Je suis désolé de me présenter devant vous dans un état aussi déliquescent, mais j'ai été sauvagement agressé par une crise de sciatique la semaine dernière et j'ai quelques peines à rester debout longtemps. Alors, je voudrais revenir simplement sur l'histoire du lycée pour dire en quelques mots comment ça s'était passé. La création du lycée coïncide avec, c'est une conséquence d'une certaine manière, donc elle coïncide avec les lois de décentralisation de 1984. À ce moment-là, tout ce qui relevait de l'éducation nationale était dévolu aux collectivités territoriales, les collèges aux départements, les lycées aux régions. Nous étions dans une situation un peu particulière puisque nous avions ici comme président du Conseil général à l'époque le ministre de l'Éducation nationale, M. René Monory. Et dans ce grand courant des lois de décentralisation, les collectivités territoriales ne possédaient pas encore de services qui étaient capables de mettre sur pied des projets pédagogiques ou d'organiser des filières d'enseignement. On a donc fait appel tout naturellement aux services rectoraux et dans ce grand courant de la décentralisation, nous avons réussi, mon équipe et moi, à faire sortir de terre quelques bâtiments qui me semblent avoir conservé tout leur intérêt, puisqu'ils sont encore quelques-uns des symboles de la région sur le plan de la formation. Nous avons créé successivement le projet pédagogique et ensuite nous avons monté le dossier du LPI, c'était le premier, je vais y revenir, et du lycée Marcel Dassault, lycée de plasturgie, qui, à vrai dire, résulte de la connivence du recteur, moi-même, et de M. Fraud, qui était maire de Rochefort à l'époque. Nous avons transformé un petit lycée professionnel où l'on faisait un peu de bois et un peu de chaudronnerie en un magnifique lycée de la plasturgie qui a fait l'admiration par la suite de Pierre-Gilles de Gênes. Nous avons créé de toutes pièces avec au prix d'une supercherie en dupant les élus régionaux, le lycée des métiers de la mer à Boursefranc. Nous avons inventé des classes technologiques métiers de la mer dans des collèges et une fois ces classes en place, il fallait que la région ouvre un lycée et nous avons mis en place Boursefranc. Nous avons créé le lycée de l'image et du son à Angoulême et en dernier lieu le lycée du Bois d'Amour. C'était des projets que mon équipe a mis sur pied et engagé dans les années 84-88. Dans tous ces établissements, nous avions des constantes. Nous voulions rechercher une motivation des élèves par une mise en perspective entre leur formation secondaire et des formations supérieures. Par conséquent, dans tous les cas, nous avons essayé de mettre au bout des formations de type lycée, des BTS ou des ouvertures sur le supérieur. Je rappelle qu'ici, il devait y avoir un BTS en productique et il y a eu également très tôt le magistère de droit de la communication qui s'est installé ici avant de déménager. Donc, mise en perspective des formations supérieures, une insertion du projet de lycée dans un contexte technologique et industriel local. Nous avons tenu compte toutes les fois de l'environnement, les nombreux ateliers qui faisaient de l'image de synthèse à Angoulême, les 70 établissements, tout petits établissements qui faisaient de la plasturgie en Charente-Maritime, et ainsi de suite. Nous avons voulu aussi rendre l'élève acteur de sa formation, ouvrir des perspectives, quelle que soit la filière, avec proposition d'options technologiques. C'est pour ça que nous avions tenu beaucoup à mettre des formations technologiques à l'intérieur de cet établissement. L'histoire du LPI pourrait se résumer comme cela. Le recteur est convoqué un beau jour dans le bureau de M. Monory à la préfecture. À ce moment-là, le premier bâtiment du Futuroscope élevait sa boule au-dessus des champs encore. Et M. Monory me dit, Monsieur le recteur, vous me proposez un bon projet de collège innovant, sinon je le donne au privé. Or, mon sens de service public n'a fait qu'un tour, et la semaine suivante, je revenais, après un bon travail avec toute mon équipe au rectorat, avec, non pas un projet de collège, mais un projet de lycée. Alors, les acteurs de ce projet, c'était, disons qu'ils ont développé des idées que je leur avais données, mais ils les ont bien développées. C'était le collège des IPR avec Michel Caillon, qui était à l'époque IPR de physique, et des équipes de formateurs académiques. Les contenus, alors, peut-être puis-je dire un mot sur le bâtiment. Je faisais partie de la commission à l'Assemblée régionale qui choisissait les bâtiments. Et nous avions fait l'étude des trois ou quatre projets qui restaient en dernier lieu, et nous avions écarté celui-là. Il ne nous paraissait pas du tout fonctionnel. Peut-être ne l'est-il pas en tout point, mais au moins il a le mérite d'avoir maintenant de l'usage et d'avoir gagné une respectabilité. Et on a probablement acquis la pratique de l'établissement. Nous avions pris un projet plus banal que M. Monory a écarté, sans se soucier, bien entendu, de l'avis de la commission. Alors, le contenu. Eh bien, j'ai d'abord essayé de mettre dans le contenu du lycée ce qui me manquait. L'informatique. On était en 86-87, c'est-à-dire que nous étions au balbutiement de l'informatique. Le projet informatique pour tous commençait tout juste. On ne savait que très peu mettre des micros en réseau. Donc, de l'informatique. Une salle d'informatique en accès libre pour les élèves de l'établissement. Et donc une pratique du clavier, ce que je n'ai jamais réussi à acquérir parce que je suis parti trop tard. Ensuite, une pratique de l'audiovisuel. Là, peut-être, d'après ce que j'ai pu lire dans certains rapports sur les ACF, il y a eu un peu de recul là-dessus, mais c'était également dans le projet initial. Un labo de langue en accès libre également, que nous souhaitions pour les élèves, et puis un CDI qui paraissait absolument fondamental dans un établissement comme celui-là, et qui, je pense, est resté encore un des points forts de cet établissement. Nous avions fait le choix de classes à dominante scientifique avec des perspectives technologiques dont je parlais de ce BTS de productique. Ces grandes lignes donc ont été mises en musique par mon équipe, et un rapport général a été présenté à M. Monory sous la responsabilité de Benoît Simeoni, qui à l'époque était directeur du CRDP. En ce qui concerne la pédagogie, il s'agissait d'abord de modifier le rapport de l'élève et de l'enseignant. C'est le tutorat avec des groupes de 10 à 15 élèves qui était un des points forts au départ de l'établissement. Un système particulier de validation des contrôles, une articulation de projets individuels ou collectifs avec l'enseignement général pour développer l'autonomie et la responsabilité de l'élève. C'est l'origine des ACF, qui sont restés un des points forts de l'établissement. Je ne sais pas où on en est maintenant, parce que, évidemment, j'ai pris un petit peu de recul.
C'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. Les moyens, alors je ne parle pas des moyens financiers parce que dans un rapport, un excellent rapport de 1991 de Philippe Meunier, qui était CPE, je ne sais pas si il n'est plus dans la maison.
Non, il est principal de collège.
Il est principal de collège. Dans cet excellent rapport, donc, il est question en particulier de la collecte de financement pour les ACF auprès des collectivités, d'industriels, hors de la maison. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était le temps. Si on met en place des actions de formation dans un établissement, ça signifie qu'il faut du temps pour les enseignants et du temps pour les élèves. Alors, sans la moindre honte, j'avais proposé, et il avait été inscrit dans le projet, de réduire systématiquement de 20% les horaires de toutes les disciplines de l'enseignement général du lycée. Ensuite, c'est devenu, je crois, plus raisonnablement 15%, et après, je ne sais pas ce qu'il en est advenu. En tout cas, j'ai présenté ce projet devant une commission nationale à laquelle participait la représentante du SNES, qui était Mme Monique Voyat à l'époque, et Mme Voyat s'était abstenue. Elle n'avait pas voté contre le projet. Alors, le recrutement, le recrutement des élèves s'est fait en partie sur secteur, je pense que c'est indispensable, mais aussi essentiellement sur la motivation, et je pense que c'est là une excellente chose que d'aider à pousser dans leur développement personnel des élèves particulièrement motivés. Quant aux enseignants, le recrutement s'est fait tout de suite hors mouvement sur motivation, et on a eu à la tête de cet établissement un proviseur que j'ai dégradé, pour ainsi dire. Il était proviseur de Berthelot à Châtellerault, 4e catégorie, et il est devenu ici proviseur la première année, un lycée de 149 élèves, je crois, ou 147, 2e catégorie. Et M. Sanson, François Sanson, a lancé cet établissement, a su gagner la confiance de son environnement, de ses enseignants, des élèves. Et on a constitué par conséquent ici une équipe dans l'ensemble très homogène, très motivée pour la mise en œuvre du projet et qui a constamment travaillé bien au-delà des obligations de service. Ces équipes d'enseignants au travail souvent exemplaire ont été évidemment très impliqués dans les ACF, et cela a permis de mettre en évidence l'importance de ces activités de formation complémentaires, mais si imbriquées avec l'éducation, avec la formation fondamentale, qu'elles en devenaient une véritable partie. Alors, je renvoie à ce rapport Meunier de 1991, qui est véritablement extrêmement éclairant. Alors, je termine sur les résultats et l'évolution de la maison. Au départ, les parents d'élèves, bon nombre d'enseignants et peut-être les élèves ont redouté beaucoup ce fonctionnement tout à fait particulier. Et malgré les craintes initiales de certains, on a vu tout de suite des résultats tout à fait remarquables qui étaient d'abord dans la moyenne académique et qui ont pu devenir ensuite supérieurs à la moyenne académique. Ce qui est très caractéristique, c'est l'attachement des élèves à leur lycée et le bien-être des élèves dans cet établissement. Je crois que c'est là quelque chose de fondamental. Et j'ai souvent eu l'occasion par la suite à l'université de parler avec des collègues qui avaient d'anciens élèves du LPI parmi leurs étudiants, et l'autonomie de ces étudiants était tout à fait remarquable par rapport aux autres étudiants. Il faut bien dire aussi, mais ça n'a pas souvent été dit dans les instances nationales, que pratique et résultats du LPI ont été souvent exploités, et par l'inspection générale, et par le ministère, dans des projets qui étaient, me semble-t-il, dans des propositions pour l'éducation nationale, qui, me semble-t-il, était malgré tout privé de l'âme du LPI. Je pense que, pour moi, il est temps de conclure, le LPI est toujours debout. Je pense qu'il va continuer à produire ses fruits. J'adresse rétrospectivement et dans le moment présent tous mes remerciements à ceux qui ont su donner une âme et ont su faire vivre cet établissement. Et je crois que nous pouvons avoir encore de grands espoirs. La dimension internationale qu'évoquait Madame le Proviseur est quelque chose d'extrêmement important. Et je crois que tout cela fait que nous resterons, non pas un établissement pilote véritablement, puisque je crois que nous ne sommes jamais entrés dans cette catégorie-là, mais pilote par tout ce qui s'y crée et ce qui se produira par la suite dans cette maison. Je vous remercie.